Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Les bailleurs de fonds ont choisi 2023 pour visiter la RDC, notamment pour évaluer l'impact du fonds de consolidation de la paix et dans le cadre du retrait progressif de la MONUSCO. C'est ce qu'a dit le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis. Il conduit une importante mission des agences onusiennes à Chikapa au Kasaï. Bruno Lemarquis est l'invité de ce journal. Le 17 mai, aujourd'hui, journée dédiée au FARDC depuis l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa il y a 26 ans, à cette occasion, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi rend un hommage mérité aux combattants au sein de l'armée et lance un appel aux habitants de Kinshasa de répondre présents à la marche pacifique prévue le samedi 20 mai. Madame, Messieurs, bonjour. Une importante délégation des agences des Nations Unies, des donateurs et des représentants du gouvernement de la RDC séjourne à Chikapa au Kasaï, ce depuis hier mardi pour 4 jours. Selon le coordonnateur humanitaire Bruno Lemarquis, qui est à la tête de cette mission, les bailleurs des fonds ont choisi cette année 2023 pour visiter la RDC, notamment pour évaluer l'impact du fonds de consolidation de la paix, également dans le cadre du retrait progressif de la MONUSCO. Les propos de Bruno Lemarquis ont été recueillis à Chikapa par Jean-Désiré Kanyama.
Nous sommes ici dans le cadre d'une mission avec un groupe, ce qu'on appelle le groupe d'amis des bailleurs de fonds du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. C'est un fonds qui est actif depuis un certain nombre d'années en RDC et donc il est financé par des bailleurs de fonds et donc des représentants de ces bailleurs de fonds visitent quelques pays chaque année et cette année ils ont choisi de venir en RDC. Dans notre mission, nous avons des représentants de la Belgique, de la Suisse, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Le Canada et l'Arabie saoudite devaient également venir, mais les représentants n'ont pas pu se joindre. Et puis, nous sommes venus également avec de ce qu'on appelle l'équipe pays des Nations Unies, donc des chefs d'agence, où le Fonds de consolidation de la paix a beaucoup investi ces dernières années. C'était Kasaï Central, Kasaï et Tanganyika.
Alors, la particularité de la présence des donateurs est due à quoi ?
Alors bien sûr, ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix en sigle, donc c'est le PBF.
Parlant du PBF, le Fonds de consolidation de la paix, faisons un focus de cet instrument financier utilisé par les Nations Unies pour maintenir la paix dans les pays où des conflits violents ont le risque d'éclater ou sévissent déjà. Cas de la RDC avec, à titre illustratif, le conflit Kamuina-Nsapu dans le Grand Kasaï. Selon Bruno Lemarquis, le PBF a approuvé depuis le début de son engagement en RDC en 2009 un peu plus de 79,1 millions de dollars américains d'investissement. Explication avec Jean-Désiré Kanyama.
À la demande du président de la République, l'éligibilité de la RDC au PBF a été renouvelée pour 5 ans, notamment de 2020 à 2024, avec un focus géographique dans les provinces du Kasaï, du Kasaï central et du Tanganyika, en lieu avec la transition en cours de la MONUSCO. Aussi avec 4 thématiques d'engagement, dont la réintégration communautaire, la réconciliation et la cohésion nationale, la gouvernance locale inclusive, ainsi que la promotion des solutions durables pour les populations déplacées. Les contributions du PDF en RDC intègrent également, en plus de projets au niveau national, une dimension sous-régionale dans les réponses apportées aux défis des consolidations de la paix à travers le financement de plusieurs initiatives transfrontalières entre la RDC, l'Angola, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Et d'une manière stratégique, dit Bruno Lemarquis, les interventions du PBF ont contribué à renforcer la présence des agences du système des Nations Unies et partenaires dans les provinces du Kasaï, du Kasaï central et du Tanganyika dans la dynamique du retrait de la MONUSCO, ce qui a permis la consolidation des acquis en matière de réintégration communautaire et de cohésion sociale en étroite collaboration avec les partenaires nationaux, mais aussi à renforcer l'engagement de la partie nationale à travers le ministère d'État, ministère du Plan, qui préside les comités de pilotage conjoints du portfolio PBF en direct de Chikapa dans le Kasaï. Jean-Désiré Kanyama, Radio Okapi.
Rendons-nous au Sud Kivu. Les équipes d'urgence de Médecins sans frontières dans la province ont pris en charge 1063 patients dans les hôpitaux de Minova et Numbi. Des patients composés principalement d'enfants malades, de rougeole et de choléra, et ce, dans le cadre d'une réponse d'urgence mise en œuvre par MSF pour soutenir les autorités sanitaires dans la zone de santé de Minova avec l'arrivée de 80 000 déplacés du Nord Kivu. C'était au cours du point de presse organisé hier au siège de MSF Espagne, Mumba à Bukavu. Ulrich Crépin, agent ou au chef de mission MSF Sud Kivu et chargé des opérations humanitaires, nous en parle au micro de Rachel Kiesé.
L'objectif, c'est de rappeler la situation aujourd'hui dans la zone de santé de Minova. De dire à la communauté humanitaire, aux autorités, que nous avons une population dans cette zone de santé qu'il faut continuer à assister. Là où l'accès est très difficile, notamment dans la partie haut plateau de la zone de santé de Minova, il faut y arriver, il faut continuer à monitorer les besoins humanitaires et à adapter les réponses selon ces besoins. Pour pallier à cela, chaque jour, nous continuons de renforcer notre évaluation pour être à mesure de détecter à temps les besoins humanitaires. Nous assistons à tout ce qu'on appelle les réunions de coordination des humanitaires, que ce soit au niveau provincial, au niveau de la zone de santé. Nous parlons avec les autorités pour que vraiment les efforts puissent être consentis et de répondre à tous ces besoins. Et bien sûr, nous, on reste aujourd'hui très focalisés sur la prise en charge médicale des personnes les plus vulnérables, notamment les cas de rougeole, les enfants de moins de 15 ans, et aussi répondre à ce qu'on appelle la prévention de choléra, qui, je pense, que reste une composante très importante.
Nord Kivu, le projet d'appui au renforcement du leadership des femmes dans la résolution des conflits et la gouvernance sécuritaire, a vu sa deuxième phase lancée hier à Goma avec l'accompagnement de la section genre de la MONUSCO. C'est à l'attention des femmes ambassadrices et leaders de la paix venues de Masisi, Rutshuru, Walikale et Nyiragongo. 3 mois durant, ces femmes leaders vont s'impliquer dans le retour de la paix dans leurs entités, mais aussi chercher à propulser les femmes aux prochaines échéances électorales dans leurs entités sous l'encadrement de la méga plateforme Réseau d'associations pour la promotion des droits de la femme. Parmi ces femmes leaders, Madame Foura Moulissi Hélène, coordonnatrice de la synergie des femmes pour le développement de Walikale, elle confirme que du moins dans le domaine des élections des femmes, Walikale a une avance sur les autres territoires de la partie sud du Nord Kivu. On écoute Madame Foura Moulissi au micro de Jules Ngala.
Kwa habari ya uchaguzi wa mama wa Walikale wamepanda ngazi kiasi ya kwamba
nous les femmes de Walikale avons une certaine fierté à faire valoir. En 2006, elles ont fait élire deux femmes. En 2011, elles ont fait élire une femme et un homme, et pour la mandature en cours, deux femmes et un homme. Donc par rapport au sens de décision, les femmes de Walikale sont quand même parvenues à faire entendre la voix de la femme au niveau national. Et nous demandons aux autres femmes qu'elles élisent des femmes pour que la voix de la femme soit entendue, mais aussi grâce à leur plaidoirie et intermédiation, que des lois soient votées pour protéger la femme et la famille.
Notez que la deuxième phase du projet d'appui au renforcement du leadership des femmes dans la résolution des conflits et la gouvernance sécuritaire va durer 3 mois. Je vous l'ai dit dans les titres, Ensemble pour la République rend un hommage mérité aux combattants au sein des forces armées de la République démocratique du Congo qui, au nom de la mère patrie, ont sacrifié leur vie. C'est à l'occasion de la journée dédiée aux FARDC, célébrée aujourd'hui 17 mai, donc le 17 mai de chaque année depuis 26 ans maintenant, par la voix de Madame Stéphanie Kitoumé Mouamini, au cadre et communicatrice, ce parti politique cher à Moïse Katumbi lance également un appel aux habitants de Kinshasa de répondre à son appel pour la marche pacifique prévue. Vu le 20 mai en cours. On écoute Madame Stéphanie Kitoumé au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous tenons avant tout de rendre un vibrant hommage à nos forces armées à l'occasion de cette journée du 17 mai qui leur est dédiée avec une marque très spéciale à la mémoire de ceux d'entre eux qui ont versé leur sang sur les champs de bataille. Preuve tangible d'accomplissement de leur engagement patriotique de défendre la mère patrie jusqu'au sacrifice suprême. Entre autres, M. Laurent Désiré Kabila Mamadou Ndala. Et lançons un appel patriotique à tous les Kinois de venir participer à la marche du bloc de l'opposition prévue pour ce 20 mai 2023 pour dire non à la guerre nous imposée par les ennemis internes qu'externes, ainsi qu'à l'insécurité sur toute l'étendue de notre territoire national, pour dire non à la vie chère et à la misère, pour dire non au processus électoral chaotique qui prépare déjà une fraude massive aux élections de 2023.
Direction le Kasaï oriental. Parlons de la colère des agents auxiliaires de la société NRK, Énergie du Kasaï, qui commercialise l'énergie électrique en Mbujimayi. Ces agents auxiliaires réclament le paiement des arriérés de près de 35 mois de salaire et suggèrent le départ de leur comité de gestion, qu'ils taxent aussi de mégestion. Le directeur général de NRK, lui, parle des moyens limités qui ne permettent pas à la société de faire face aux multiples charges, dont le paiement des salaires de ses agents à cause de la vétusté des machines au niveau de la centrale hydroélectrique. Esther Ndalafina nous en dit plus.
Les agents auxiliaires de l'entreprise Énergie du Kasaï ont jeté depuis ce mardi quelques tracts dans les installations de la société. Ils réclament le paiement des arriérés de près de 35 mois, comme l'indique l'un d'eux.
Nous avons un problème de la mégestion. Nous déplorons plus de 35 mois d'impayement. Nous déplorons aussi le manque de volonté de toutes les autorités qui nous dirigent.
Contacté, les directeurs généraux de NRK parlent de faibles moyens qui ne leur permettent pas de faire face aux charges de la société, dont le salaire du personnel.
Les recettes que nous recevons, 10 dollars, des factures, 20 dollars, 50 dollars, avec toutes les charges que nous avons, la maintenance de ces vieilles machines-là, du personnel, les fiscs et tout ça, on n'arrive pas à satisfaire toutes ces charges-là. Même à 50%, si bien que le salaire tombe aussi à compte-gouttes.
Selon Victor Kabongo-Kavitch, les subventions promises par le Premier ministre Samalou Kondé peuvent aider à relever les défis de l'entreprise.
Nous sommes en train de faire les démarches pour avoir cette subvention-là et redresser un peu les niveaux de production, ce qui va ipso facto augmenter nos recettes.
Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, sachez aussi que l'Assemblée nationale a déclaré recevable la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux à l'exercice du droit de grève en RDC et l'a envoyée en commission PAJ pour semaine d'examen approfondi. Au cours de la plénière de mardi, l'initiateur de la proposition de loi, le député Guy Mafuta, a fait savoir qu'il a fallu attendre 4 ans pour voir cette initiative qui touche au social de la population être alignée au soir de la 3e législature. Le droit de grève est un droit fondamental qui permet aux salariés d'exprimer leurs desiderata professionnels sans crainte de quelconque représailles. Mais comme tout droit, il est susceptible d'abus et mérite d'être régulé, motive le député Guy Mafuta. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Le droit de grève est un droit garanti par la Constitution et la même Constitution voudrait que le législateur que nous sommes puissions prendre une loi qui en organise les modalités d'exercice. C'est pourquoi nous, en tant que députés, vivant avec la population, après avoir constaté plusieurs abus dans les relations professionnelles entre le travailleur et l'employeur, je suis content parce que pour une fois, nous nous penchons vers le social de la population. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut aussi, en contrepartie, veiller à la protection de l'outil de travail. Depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais eu de loi qui régule la grève. L'article 303 du Code du travail dit clairement, pour aller en grève, il faudrait que ça soit fondé sur l'amélioration des conditions de travail, pas autre chose. Quand vous voulez aller en grève parce que les léopards n'ont pas gagné un match, ça devient une grève qui n'a pas de sens.
Province du Maniema, la campagne de sensibilisation environnementale sur la protection de la biodiversité menée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN à Kindu commence à produire des effets. Au bout de quelques jours de cette sensibilisation, 2 chimpanzés ont été remis volontairement par la communauté à l'ICCN. Le chef de site salue cette volonté de la population. Radar Nishuli invite ceux qui résistent de ne pas attendre la rigueur de la loi. Il le dit au micro de Florence Kiza.
Les gens ont commencé à remettre, puisque depuis que je suis là, je lançais une campagne de sensibilisation pour avertir déjà les gens que détenir les chimpanzés, c'est une interdiction formelle par la loi de notre pays. Alors, je n'ai pas voulu être trop brutal au départ, puisque j'ai constaté que la plupart des gens le font par l'ignorance de la loi. Mais vous connaissez que aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais pour le moment, j'ai pensé donner une période de grâce pour que les gens remettent les chimpanzés après la sensibilisation. C'est ainsi que les gens commencent à donner. Et depuis que nous avons commencé la sensibilisation, il y a deux qui sont déjà remis. Un qui est venu du côté Sankourou et un autre que nous avons reçu ce matin qui venait du village tout proche de Kindu ici. Nous connaissons déjà les maisons où il y a des espèces totalement protégées qui sont gardées. Pour le moment, je pense que nous avons encore une marge d'un mois. Celui qui remettra, nous allons le remercier et le laisser partir. Mais après un mois, ce sera maintenant nous-mêmes qui irons chercher avec tout ce qui va s'en suivre.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mali. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dénoncé mardi les violences jugées injustifiables perpétrées à Moura en mars 2022 par les forces maliennes et le groupe Wagner contre les populations civiles et documentées dans un rapport de l'ONU. Ces violences ne font qu'ajouter à la déstabilisation du Mali et qu'aggraver les conséquences néfastes sur les pays voisins, a déploré le chef de la diplomatie européenne dans une déclaration publiée mardi soir à Bruxelles. Notez aussi que l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été condamné mercredi en appel à Paris à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes et peine à exécuter sous bracelet électronique. Il a fait savoir par son avocate qu'il comptait ses pourvoirs en cassation.
L'invité.
Nous recevons le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC depuis Chikapa au Kasaï où il conduit une mission interagence. Bruno Lemarquis parle de l'impact du Fonds pour la consolidation de la paix du secrétaire général des Nations Unies. Il s'entretient avec Jean-Désiré Kanyama.
Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique la présence de cette importante mission interagence à Chikapa dans la province du Kasaï?
Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une mission avec ce qu'on appelle le groupe d'amis des bailleurs de fonds du Fonds de consolidation de la paix du secrétaire général. C'est un fonds qui est actif depuis un certain nombre d'années en RDC, qu'il est financé par des bailleurs de fonds, et donc des représentants de ces bailleurs de fonds visitent quelques pays chaque année, et cette année ils ont choisi de venir en RDC. Donc, dans notre mission, nous avons des représentants de la Belgique, de la Suisse, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Union européenne. Le Canada et l'Arabie saoudite devaient également venir, mais les représentants n'ont pas pu se joindre. Et puis, nous sommes venus également avec des membres de ce qu'on appelle l'équipe pays des Nations Unies, donc des chefs d'agence des Nations Unies.
Pourquoi Chikapa et non, par exemple, le Kananga, qui avait été secoué, vous le savez, par la milice Kamuinansapu?
Bon, on avait le choix entre Kalemi, Kananga, Chikapa. Les collègues ont discuté avec les autorités, avec différents partenaires. On a fait le choix de Chikapa, mais les collègues de Kananga sont venus ici à Chikapa nous rejoindre. Donc on a aussi une discussion qui est plus large que le Kasaï. Ça couvre aussi Kasaï central. Et donc nous sommes ici depuis aujourd'hui à Chikapa pour 4 jours. Le Fonds de consolidation de la paix a beaucoup investi ces dernières années. C'était Kasaï central, Kasaï et Tanganyika.
Et quid de la présence des donateurs dans cette mission?
Alors bien sûr, ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix en sigle, donc c'est le PBF. Donc eux, ce sont des gens qui viennent des sièges, soit de New York, soit de leur capitale. Ils veulent voir l'impact du Fonds de consolidation de la paix. Le Fonds de consolidation de la paix a investi à peu près 80 millions de dollars ces dernières années en RDC, donc ce qui est un montant assez important pour qui est focalisé sur la consolidation de la paix. Ça a été concentré sur quelques provinces et récemment, ça a été notamment concentré dans le cadre de la transition de la MONUSCO. C'est pour ça que le PBF a beaucoup investi dans les 3 provinces d'où s'est récemment retirée la MONUSCO, puisque en 2021 la MONUSCO s'est retirée des Kasaï et en 2022 du Tanganyika.
Vous avez fait allusion au départ de la MONUSCO dans quelques provinces. Dans quel domaine elle était active pour les Kasaï?
Alors d'abord, peut-être pour dire quelques mots sur la transition de la MONUSCO. La transition de la MONUSCO, ce n'est pas équivalent au départ des Nations Unies. La MONUSCO quitte, mais les Nations Unies restent à travers ses agences, ses fonds, ses programmes. Il y a 22 agences des Nations Unies qui opèrent en RDC, et de très nombreuses agences opèrent dans les différentes provinces, notamment ici à Chikapa.
Quel a été l'impact du projet PBF dans le Kasaï?
Donc, parmi les domaines où la MONUSCO était très active, par exemple ici, il y a le domaine de la justice, il y avait le domaine de la protection des civils, le domaine de la cohésion sociale, il y avait le domaine du DDR, donc du désarmement, démobilisation des combattants et leur réinsertion, etc. Il y avait tout un nombre de thématiques. Dans le cadre de la transition de la MONUSCO, donc il y a une montée en puissance des agences du système des Nations Unies pour qu'elles puissent appuyer les autorités nationales, provinciales et locales au niveau des territoires à continuer les efforts et à consolider tous les gains qui avaient été faits.
C'est donc ce qui explique la présence du secrétaire général au plan dans cette mission.
Alors bien sûr, pour ce qui a trait au fonds de consolidation de la paix, nous travaillons avec notre tutelle qui est le ministère du plan. La ministre d'État, ministre du plan est représentée dans notre délégation par le secrétaire général du ministère du plan national qui est avec nous. Il y a un comité de pilotage national du fonds de consolidation de la paix qui est présidé par la ministre d'État et moi-même. Donc ça c'est au niveau de la tutelle générale et ensuite bien sûr on travaille avec tous les ministères concernés, le ministère de la justice, le ministère de l'intérieur, le ministère des droits humains, etc. puisque les Nations Unies travaillent toujours en partenariat avec les autorités. Alors aujourd'hui, j'ai posé la question à nos collègues qui sont basés ici sur l'impact, parce que c'est important d'avoir des activités, c'est important d'avoir des résultats, c'est important de faire des formations, c'est important de construire des bâtiments publics, c'est important, mais tout ça, c'est des résultats qui n'ont pas forcément de l'impact. Ce qui compte à la fin, c'est l'impact.
Bruno Lemarquis, merci.
Merci beaucoup, merci à tous les auditeurs de Radio Okapi, comme toujours.
Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC répondait aux questions de Jean-Désiré Kanyama. C'est la fin de ce journal coordonné par Élisée Chikotati-Vuita. Supervision de Martin Sebujangwe, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci.